Chapitre 2. La maison des dauphins. Les dauphins venaient nager dans le salon tous les soirs, juste avant le coucher du soleil. Ils n'avaient manqué à leur habitude qu'une seule fois depuis que Floyd occupait la résidence du chancelier. C'était le jour du raz-de-marée de 2005, lequel, heureusement, avait perdu la plus grande partie de sa force avant d'atteindre Ilo. La prochaine fois que ses amis n'apparaîtraient pas à leur dite, Floyd jetterait toute sa famille dans la voiture et foncerait vers les montagnes, dans la direction générale de Mauna Kea. Les dauphins étaient charmants, mais ils devaient admettre que leur jeu avait quelques inconvénients. Le riche biologiste marin qui avait fait construire la maison ne voyait pas d'objection à se faire mouiller puisqu'il portait d'habitude un maillot de bain ou rien. Mais il se souvenait d'une occasion inoubliable, un jour que le conseil des régents, au complet et en tenue de soirée, sirotait des cocktails autour du bassin en attendant l'arrivée d'un invité d'honneur. Les dauphins en avaient déduit, à juste titre, qu'il n'aurait pas la vedette, de sorte que l'invité eut la surprise d'être salué par un comité d'accueil trempé et vêtu de peignoirs mal assortis, tandis que le buffet était particulièrement salé. Floyd se demandait souvent ce que Marion aurait pensé de cette maison étrange et magnifique au bord du Pacifique. Elle n'avait jamais aimé la mer, mais en fin de compte, c'est la mer qui avait gagné. L'image s'effaçait lentement au fond de sa mémoire, mais Floyd voyait encore l'écran scintillant où il avait lu ces mots « Docteur Floyd, urgent et personnel ». Puis les lignes de caractères fluorescents qui avaient marqué leur message au fer rouge dans son cerveau. « Regret vous informer que vol 452 Londres-Washington signalé écrasé au large Terre-Neuve. Navire de secours se rend sur les lieux mais craignons aucun survivant ». Sans un caprice du destin, il se serait trouvé dans le même avion. Pendant quelques jours, il avait presque regretté les complications de l'administration spatiale européenne qu'il avait retenue à Paris. Ce marchandage sur la charge utile de Solaris lui avait sauvé la vie. Et maintenant, il avait un nouveau poste, une nouvelle maison et une nouvelle femme. Là aussi, le sort avait joué un rôle ironique. Les récriminations et les enquêtes ayant suivi la mission vers Jupiter avaient détruit sa carrière à Washington, mais un homme de sa compétence ne restait jamais longtemps sans être employé. Le rythme plus détendu de la vie universitaire l'avait toujours attiré, et il était apparu irrésistible en s'alliant à l'un des plus beaux sites de la planète. Un mois à peine après sa nomination, alors qu'il regardait les fontaines de feu de Kilaulka avec une foule de touristes, il avait rencontré celle qui allait devenir sa seconde femme. Avec Caroline, il avait trouvé le contentement, ce qui est presque aussi important que le bonheur et dure plus longtemps. Elle avait fait une excellente belle-mère pour les deux filles de Marion et lui avait donné Christophe. Malgré leurs 20 ans de différence, elle comprenait ses humeurs et savait le sortir de ses dépressions occasionnelles. Grâce à elle, il était maintenant capable de se souvenir de Marion sans souffrir, mais non sans éprouver une tristesse nostalgique qui le suivrait le reste de ses jours. Caroline lançait des poissons au plus grand des dauphins, le grand mâle qu'ils appelaient Balafré, quand un léger chatouillis au poignet l'informa qu'on l'appelait au téléphone. Il tapota le mince bracelet métallique pour supprimer le signal et empêcher la sonnerie qui allait suivre, puis se rendit au plus proche des appareils disséminés dans la pièce.
« Ici le chancelier. Qui appelle ?»«
Ewood. C'est Victor. Comment vas-tu »
En une fraction de seconde, tout un kaléidoscope d'émotions lui traversa l'esprit. D'abord la contrariété, son successeur, qui était aussi, il en était sûr, le principal artisan de sa chute, n'avait pas essayé de le joindre une seule fois depuis son départ de Washington. Puis, la curiosité. De quoi pourrait-il parler? Ensuite, la ferme décision d'être aussi peu coopératif que possible, suivie par la honte devant sa propre puérilité et enfin par une bouffée d'excitation. Il n'y avait qu'une seule raison pour que Victor Milson l'appelle. Du ton le plus neutre qu'il réussit à prendre, il répondit
« Je ne peux pas me plaindre, Victor.
Quel est le problème ?»
Ce circuit est-il protégé?
Non, Dieu merci, je n'ai plus besoin de ça. Bon, disons-le ainsi, tu te souviens du dernier projet dont tu étais l'administrateur ?
Il y a peu de chances pour que je l'oublie, d'autant que le sous-comité de l'astronautique m'a rappelé le mois dernier pour témoigner une fois de plus.
Bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment que je me mette à lire ta déclaration quand j'aurai un moment. Mais j'ai été tellement occupé par les suites et c'est là le problème.
Je pensais que tout se passait comme prévu.
C'est le cas, malheureusement. Il n'y a rien que nous puissions faire pour aller plus vite. Même une priorité absolue ne ferait gagner que quelques semaines. Et cela signifie que nous arriverons trop tard.
Je ne comprends pas, dit Floyd d'un ton innocent. Même si nous n'avons pas envie de perdre du temps, naturellement, il n'y a pas vraiment de date limite.
Maintenant, il y en a une. Deux.
Tu m'étonnes beaucoup.
Si Victor comprit l'ironie du propos, il ne la releva pas. Oui, il y a deux échéances. L'une vient des hommes, l'autre non. Il se trouve désormais que nous ne serons pas les premiers à retourner sur la scène de l'action. Nos vieux rivaux vont nous battre au moins d'un an.
Dommage.
Ce n'est pas le pire. Même s'il n'y avait aucune compétition, nous arriverions trop tard. Il n'y aurait plus rien quand nous serions sur place.
C'est ridicule. Je suis certain que j'aurais été prévenu si le Congrès avait aboli la loi de la gravitation.
Je suis sérieux. La situation n'est pas stable. Je ne peux pas donner de détails. Seras-tu chez toi le reste de la soirée ?
Oui, répondit Floyd, comprenant avec un certain plaisir que minuit devait être passé depuis longtemps à Washington.
Bien. Un paquet te sera livré d'ici une heure. Rappelle-moi dès que tu auras le temps de l'étudier.
Ne sera-t-il pas un peu tard à ce moment-là ?
Oui, c'est vrai. Mais nous avons déjà perdu trop de temps. Je ne veux pas en perdre davantage.
Milson tint parole. Une heure plus tard exactement, une grande enveloppe scellée fut apportée par un colonel de l'US Air Force, rien de moins, qui s'assit pour bavarder tranquillement avec Caroline pendant que Floyd prenait connaissance du contenu.
« Je regrette d'avoir à la remporter quand vous aurez terminé »,
dit en s'excusant le garçon de course galonné.
« Je suis content de le savoir », répondit Floyd en s'installant dans son hamac préféré.
Il y avait deux documents. Le premier était très court, tamponné top secret, mais le top était barré et la modification avalisée par trois signatures, toutes les trois illisibles. Le texte, visiblement extrait d'un rapport beaucoup plus long, avait été lourdement censuré et entrecoupé de blancs qui en rendaient la lecture des plus agaçantes. Heureusement, ces conclusions pouvaient se résumer en une seule phrase. Les Russes atteindraient Discovery longtemps avant que ses propriétaires légitimes n'en soient capables. Comme Floyd le savait déjà, il passa très vite au second document, non sans remarquer avec une certaine satisfaction que cette fois, ils avaient le nom correct. Comme toujours, Dimitri avait été d'une précision parfaite. La prochaine expédition vers Jupiter voyagerait à bord du vaisseau spatial cosmonaute Alexei Leonov. Le deuxième document était nettement plus long et seulement classé confidentiel. En fait, il se présentait même sous forme d'un brouillon de lettres à la revue Science, n'attendant que le bon à tirer pour être publié, avec un titre précis. « Anomalie de comportement orbital du véhicule spatial Discovery ». Suivait une douzaine de pages de calculs et de tables astronomiques. Floyd les parcourut en diagonale, écoutant la musique des mots, cherchant un mot d'excuse ou même une trace de gêne. À la fin, il fut obligé de laisser échapper une grimace admirative. Nul n'aurait pu supposer que les stations d'observation et les calculateurs d'orbite avaient été pris par surprise et qu'ils s'affairaient frénétiquement à recouvrir leurs traces. Des têtes allaient tomber, sûrement. Et il savait que Victor Milson aurait plaisir à les voir rouler dans le panier si la sienne n'était pas la première à y tomber.
Quoique, pour lui rendre justice, Victor eût osé protester lorsque le Congrès avait diminué les crédits du réseau d'observation. Cela suffirait peut-être à le dédouaner.
Merci, colonel, dit Floyd quand il eut parcouru les dernières pages. Tout à fait comme dans l'ancien temps de recevoir des documents classés secrets. Voilà une chose qui ne me manque pas.
Le colonel remit soigneusement l'enveloppe dans sa serviette et fit jouer les serrures.
« Le docteur Milson aimerait que vous le rappeliez aussitôt que possible. »«
Je sais, mais je n'ai pas de circuit protégé. Quelques visiteurs importants vont bientôt arriver, et du diable si je vais aller jusqu'à vos bureaux de îlot simplement pour dire que j'ai lu deux documents. Dites-lui que je les ai soigneusement étudiés et que j'attends avec intérêt toute nouvelle information. »
Un instant, il sembla que le colonel allait discuter. Mais il se ravisa, les salua, très raide, et repartit lugubrement dans la nuit.
« Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ?»
demanda Caroline.
« Nous n'attendons aucune visite ce soir, importante ou pas. »
« Je déteste me faire bousculer, tout spécialement par Victor Milson. »
« Je parie qu'il te rappellera dès que le colonel aura fait son rapport.
Alors, il faudra couper l'image et fabriquer une ambiance de fête. »
Mais pour être absolument sincère, actuellement, je n'ai vraiment rien à dire.
À propos de quoi, si je puis me permettre de le demander?
Excuse-moi, chérie, on dirait que Discovery est en train de nous jouer des tours. Nous pensions que le vaisseau était sur une orbite stable, mais il va peut-être s'écraser.
Sur Jupiter?
Oh non, c'est tout à fait impossible. Bowman l'a parqué sur la première orbite de Lagrange, juste entre Jupiter et Io. Il aurait dû s'y tenir, plus ou moins, même si les perturbations des autres lunes le font osciller de part et d'autre.
Mais ce qui se passe maintenant est très étrange, et nous n'avons pas encore toutes les explications. Discovery dérive de plus en plus vite vers Io, sauf que parfois il accélère, et d'autres fois même il retourne en arrière. S'il continue comme ça, il s'écrasera d'ici 2 ou 3 ans.
Je croyais que cela ne pouvait pas arriver en astronomie.
La mécanique céleste n'est-elle pas censée être une science exacte?
C'est ce qu'on nous a toujours dit, à nous autres pauvres biologistes arriérés.
C'est une science exacte quand tout est pris en considération. Mais il se passe des choses très curieuses autour d'Io. Sans compter ces volcans, il y a de gigantesques décharges électriques. Et le champ magnétique de Jupiter tourne sur lui-même en 10 heures. La gravitation n'est donc pas la seule force agissant sur Discovery. Nous aurions dû y penser plus tôt. Beaucoup plus tôt.
Enfin, ce n'est plus ton problème. Tu devrais en être content.
Ton problème, exactement les mots qu'avait employés Dimitri. Et Dimitri, ce vieux renard, le connaissait depuis bien plus longtemps que Caroline. Ce n'était peut-être plus son problème, mais c'était toujours sa responsabilité. Même si beaucoup de gens avaient été concernés, en dernière analyse, c'est lui qui avait approuvé les plans de la mission Jupiter et qui avait supervisé leur exécution. À l'époque, pourtant, il avait eu des scrupules. Ses opinions scientifiques se heurtaient à ses devoirs de bureaucrate. Il aurait pu dire le fond de sa pensée et s'opposer aux vues politiques à court terme de l'ancienne administration, mais il était encore difficile de savoir dans quelle mesure celle-ci avait contribué au désastre. Peut-être valait-il mieux qu'il referme ce chapitre de sa vie, qu'il concentre son esprit et son énergie sur sa nouvelle carrière, mais au fond de son cœur, il savait que c'était impossible. Même si Dimitri n'était pas venu réveiller d'anciennes culpabilités, elle serait remontée d'elle-même à la surface. 4 hommes étaient morts et un 5e avait disparu, là-bas, parmi les lunes de Jupiter. Il avait du sang sur les mains et ne savait comment il pourrait le laver.